Radio Okapi.
Accord de Doha, le vice-premier ministre Jacquemin Chabani réaffirme l'engagement du gouvernement pour sa mise en œuvre, tandis que les experts travaillent à l'application des mesures de confiance avec l'AFC-M23 dans le respect de la législation congolaise. À Beni, une dizaine de maisons emportées et d'importants dégâts matériels après une pluie torrentielle. La protection civile appelle la population à la vigilance. Formation à Bounia des élus communaux et leaders locaux sur la bonne gouvernance, le contrôle citoyen et la gestion communale. Notre invité Yedidia Mabella de l'ONG AJDDH va nous expliquer cette initiative qui vise à renforcer le rôle des acteurs locaux, même dans le contexte de l'état de siège. Bonjour à tous. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a renouvelé hier mardi à Kinshasa l'engagement du gouvernement en faveur de l'aboutissement de l'accord de Doha lors du briefing de presse co-animé avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya. Il a assuré que les experts gouvernementaux travaillent activement à la mise en œuvre des mesures de confiance prévues dans l'accord de principe entre Kinshasa et les rebelles de l'AFC-M23. À ces sujets, Patrick Muyaya a pour sa part souligner que toutes les démarches devront s'inscrire dans le strict respect de la législation congolaise. Le point avec Blaise Nongala.
Le gouvernement souminois D restait attaché au processus de Doha conduit sous la médiation qatari. Jacquemin Chabani a indiqué que l'exécutif national a déjà mobilisé des experts pour appliquer des mesures de confiance contenues dans l'accord des principes, notamment celles relatives à la libération des prisonniers par l'une ou l'autre partie. Jacquemin Chabani.
Les questions de liberté, de détention sont fonction des textes légaux et des institutions qui s'en occupent. Nous avons un pouvoir judiciaire. Actuellement, c'est un travail de fond qui est en train d'être fait par les experts de ces différentes institutions pour donner une réponse à la procédure qui va être mise en œuvre pour arriver à l'exécution de cette question.
De son côté, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a insisté sur le fait que toutes les mesures de confiance doivent être mises en œuvre dans le respect de la loi congolaise.
La mise en place avec la facilitation du Comité international de la Croix-Rouge est dans le cadre de la loi congolaise d'un mécanisme permettant l'organisation de la libération des prisonniers détenus par l'une ou l'autre partie.
Pendant que les négociations politiques se poursuivent à Doha, la situation sur terrain reste tendue. Dans les provinces du Nord et Sud Kivu, les combats s'intensifient entre les rebelles soutenus par les Rwandais et les forces armées congolaises appuyées par les combattants Wazalendo.
Le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, Jean de Dieu Ntanga Ntita, en mission officielle en Ituri depuis lundi, a visité mardi quelques projets de réinsertion sociale et de cohabitation pacifique des ex-combattants, notamment celui financé par la MONUSCO à Tséré, à environ 5 km au sud-ouest de la ville de Bounia. Sur l'évolution de ces projets, le point avec vous, Martial Kizabiamungu.
Lancé depuis mai 2025, les projets financés par la MONUSCO à travers sa section de désarmement, démobilisation, réinsertion et stabilisation portent sur la réinsertion des ex-combattants. Il comprend notamment l'élevage des vaches au profit de démobilisés issus des groupes d'autodéfense et de membres de la communauté locale, soit une cinquantaine de bénéficiaires. Le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Tangantita, s'est dit satisfait de l'évolution du projet. Avant de regagner le centre-ville de Bounia, la délégation de PDDRCS s'est rendue sur les chantiers des travaux de construction du bureau de la coopérative des ex-combattants où ces derniers pourront réaliser avec de la communauté locale des activités génératrices de revenus. Au final, satisfait de l'évolution des projets visités, le coordonnateur national a encouragé les bénéficiaires, je cite, à travailler dur pour gagner leur retour à la vie normale. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au sud Kivu, les activités socio-économiques sont paralysées dans la ville d'Uvira à cause d'une manifestation des Wazalendo et de certains mouvements citoyens locaux. Ces derniers protestent contre la décision des autorités militaires de déployer le général Olivier Gassita pour superviser les services de renseignement dans la région. Le point avec vous, René-Lyne Thibonera.
Depuis lundi, les Ouazalendo ont exprimé leur désaccord face à cette nomination. Ils affirment craindre que le général Gassita soit un agent double agissant au profit de la rébellion du M23. Ce matin, les écoles, les marchés ainsi que les transports en commun sont restés paralysés dans les quartiers de Mulongwe, Kasenga et Kanvivira selon nos sources. Sur l'axe reliant le pont Mulongwe à Kanvivira, seuls quelques véhicules circulent. Par ailleurs, dans cette même zone, deux civils, un client et un motard ont été blessés par balle à Kalungwe hier mardi, tirés par un combattant Ouazalendo. Des témoins rapportent que les victimes auraient été prises pour cible après avoir refusé de se conformer à la dite manifestation. Depuis la semaine dernière, les affrontements entre les Ouazalendo et les FRDC se sont intensifiés. Les combattants locaux s'étaient opposés à l'arrivée d'une délégation de personnes venues du Burundi pour assister aux obsèques du feu colonel Patrick. Lors de ces accrochages, au moins 5 Ouazalendo avaient été neutralisés et 14 autres interpellés selon l'armée.
Je le disais dans les titres, une dizaine de maisons ont porté et des dégâts matériels importants. C'est le bilan d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Beni au Nord Kivu la nuit dernière. Selon la protection civile dans la région, plusieurs maisons ont perdu leur toiture et certains murs se sont écroulés dans les différents chantiers, dont le quartier Benengoulé, Rwangoma, Butanuka, Kanzuli, Zuli et Macampagne. Le coordonnateur de la protection civile appelle la population à la vigilance et à bien vérifier l'état des toitures des maisons. Il invite la population qui habite près des lits des rivières à prendre des précautions pendant cette période pluvieuse. Jean-Paul Capitula est au micro de Marc Marufimo.
Il s'annonce déjà un début très compliqué du mois de septembre, parce que même le lundi, il y a eu un ouragan, un tourbillon, qui aurait emporté 3 maisons à Benengoulé, avec des dégâts matériels énormes. J'appelle à la population d'être encore à la vigilance, voir nos toitures, revoir nos constructions. Ceux qui sont sur les lits des rivières, encore une fois, je le rappelle, voilà que la pluie s'est abattue la nuit. Et si jamais il y a eu des inondations, les dégâts seraient énormes. J'appelle à ce que nous puissions tous être tout azimuts, voir comment on peut minimiser tous les risques de catastrophes naturelles en fait qui nous proviennent. Et la zone est secouée de plusieurs catastrophes. Nous devons nous tous conjuguer nos efforts pour faire face contre ces catastrophes. Sinon, notre message actuellement, c'est de demander aux autorités de base, tous ceux-là qui sont de la jeunesse, la société civile, de pouvoir collaborer, partager avec nous sur toutes les situations. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas la collaboration, il y a une crise de formation. Ça cache aux autorités les opportunités à prendre des décisions utiles.
Dans la province du Maniema, les sinistrés de la pluie diluvienne accompagnée d'un vent violent du 26 août dernier vivent dans des conditions très difficiles. Ayant tout perdu, ces sinistrés ont besoin d'une assistance humanitaire urgente. Florence Kizalunga a visité certains ce mercredi. Suivez son reportage.
Ayant tout perdu, la plupart de ces sinistrés vivent dans une détresse permanente. Ils manquent de nourriture et leurs enfants ne sont pas retournés à l'école. Tous, à l'unanimité, sollicitent une aide humanitaire d'urgence. L'un d'eux, Ngongo Amadi Charles, du bloc Kipalamoto.
Nous sommes nombreux à être touchés par ces drames. Tel que vous me voyez, je suis père de 11 enfants, y compris ma femme. Nous avons été victimes de ces drames. Nous avons tout perdu, des provisions, même des biens de la maison. Et mes enfants n'étudient pas jusqu'à présent, parce que tout ce qu'on avait préparé, ça a été emporté par le vent.
De son côté, la bourgmestre de la commune de Mikelenge, où il y a plus de 500 sinistrés, appelle également à l'aide. Miminje Kazobela.
Je demande vraiment une aide d'urgence de la part des partenaires, gouvernement provincial et national, parce que ces sinistrés ne sont pas bien encadrés, les enfants n'étudient même pas, les autres sont malades.
Signalons que, selon la coordination de la protection civile, les bilan de cette catastrophe est de plus de 2000 maisons endommagées et 5 morts. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Cabinda dans la province de Lomami. Le centre secondaire de la régie des eaux Cabinda vient d'être doté d'un groupe électrogène de 150 kVA par la direction générale de Kinshasa afin de résoudre les problèmes récurrents liés à la carence d'eau dans cette ville. Une situation qui réjouit plusieurs abonnés de cette ville. Explication Esther Dalafina.
Les travaux d'installation de ces nouveaux groupes électrogènes de 150 kVA sont en train d'être effectués par la société Fawaz Trading Company. C'est un groupe complet, inclus de toutes ses pièces de rechange pour assurer une performance interrompue. La joie des habitants est immense. Certains affirment que cette dotation vient résoudre les problèmes récurrents des pannes enregistrées sur les anciens groupes électrogènes qui plongent souvent la ville dans la carence en eau potable.
Nous étions en train d'effectuer des longues distances pour puiser de l'eau. Nous aurons de l'eau en abondance, une eau potable pour nous épargner aux maladies hydriques. C'est vraiment une très bonne chose.
Selon le chef de centre secondaire de la régie des eaux, Kabinda Abakouk Kiabou, cette dotation apporte un nouveau souffle.
Et nous leur garantissons aussi que nous venons de recevoir un nouveau groupe. Nous allons faire de tout mieux pour que la population puisse accéder à cette eau-là régulièrement sans qu'il y ait des coupures.
Signalons que d'autres habitants souhaitent que la régie des eaux élargisse pour l'instant son réseau de distribution d'eau potable sur toute la ville de Kabinda. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Direction le Nord Kivu, où les droits de protection de l'enfant sont mis en mal dans la cité minière de Rubaya, territoire de Masisi, consécutivement à la situation de précarité des familles à la suite des conflits armés qui perdurent dans la région. De nombreux enfants se retrouvent employés à des lourds et dangereux travaux d'extraction dans les mines artisanales. Ce constat a été relevé en marge de cours d'été sur les droits de l'enfant que la section protection de l'enfant de la MONUSCO organise depuis mardi en faveur des étudiants en droit de l'université catholique La Sapienta de Goma. Le point avec Alain Rung.
La situation préoccupante de l'utilisation des enfants dans les mines de Rubaya est évoquée au regard des conséquences immédiates de ces travaux lourds et insalubres sur la santé et l'avenir de ces personnes âgées de moins de 18 ans, considérant les dispositions pertinentes de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Janvier Irumva Muyoboke, originaire de Rubaya, aujourd'hui étudiant en droit à l'Université catholique La Sapienta de Goma, se considère personnellement comme l'un des rescapés des dangers liés au travail dans les mines.
Il y a des enfants que nous avons grandi ensemble mais qui ne sont pas encore en vie. Ils ont perdu leur vie dans les mines et moi aussi j'ai raté plusieurs fois à ces épreuves. C'est que moi aussi j'ai pu contribuer et faire aussi des sensibilisations, sensibiliser les gens, aller dans les églises. Il y a la radio qu'on appelle Radio Communautaire Aman qui est à Rubaya pour dire exactement les méfaits de l'exploitation minière artisanale parce que c'est là où ils trouvent beaucoup des enfants.
Janvier Irumva se dit heureux de prendre part à cette session de deux jours organisée par la section protection de l'enfant de la MONUSCO. Il estime que l'agenda des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés devrait à juste titre être vulgarisé dans les communautés congolaises.
Dans la province du Tanganyika, il n'y a pas de rentrée scolaire pour plus de 500 élèves de deux écoles de la cité de Kirungu dans les territoires de Moba. Et pour cause, les ouvriers qui ont construit les bâtiments abritant ces établissements scolaires dans le cadre du PDL 145 territoire bloquent les portes. Contactés hier mardi par Radio Okapi, ces ouvriers revendiquent le paiement de leur salaire de plusieurs mois. Le point avec Paul Amunanga.
Il s'agit de l'école primaire Kisakala et l'institut Mulembwe qui fonctionnent dans les mêmes bâtiments construits dans le cadre du PDL 145 territoire. Ces bâtiments sont déjà remis officiellement aux autorités de Moba. Les ouvriers qui ont construit ces ouvrages réclament le paiement après plusieurs mois de travaux. L'ingénieur Fiston Mwamba est l'un de ces ouvriers.
Le fait de fermer les salles de classe, ce n'est pas une décision personnelle, mais c'est plutôt les ouvriers, tous ceux qui ont travaillé dans le projet PDL 145 territoire, sont en train de réclamer leur argent. Parce qu'il y en a qui ont des dettes de 2023 jusqu'à aujourd'hui ne sont pas rémunérées. Il y en a d'autres de 2024. Il y en a qui ont travaillé en 2025 qui ne sont pas payés. Moi-même qui vous parle, j'ai plus de 10 mois d'impayement.
Cette situation préoccupe les syndicats des enseignants du Congo. Placide Muyumba est le secrétaire permanent du CIECO Moba.
Nous en appelons les autorités nationales et provinciales de venir en aide rapidement afin que les enfants à partir du mercredi ou jeudi puissent déjà commencer à étudier parce que c'est plus de 500 élèves qui sont privés aujourd'hui de l'éducation parce que Safrecas n'a pas payé les gens qui nous ont aidés à construire cette école dans les projets des PDL 145 territoires.
Contacté, Papi Lungambombo, directeur de Safrecas dans la province du Tanganyika, s'est réservé à tout commentaire. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Burundi, le pouvoir est dans les viseurs de la société civile. Dans un communiqué, des experts indépendants et des membres de la société civile ont relevé une hausse des exactions dans le pays à l'encontre de tous ceux qui s'opposent aux autorités. Une hausse qui serait la conséquence directe d'une impunité généralisée accordée à tous ceux qui soutiennent le pouvoir, indiquent ces experts dans un communiqué. Au Sénégal, c'est tout un symbole. L'État annonce un plan de relance de la Poste. L'entreprise publique en crise depuis plus d'une décennie affiche un déficit de plus de 100 milliards de francs CFA. Lors d'un conseil ministériel spécialement dédié, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour tenter de sauver cette entreprise historique créée à la fin du 19e siècle et présente sur l'ensemble du territoire.
L'invité.
À Bounia, les élus communaux et leaders locaux se mettent à l'école de la bonne gouvernance. Depuis hier mardi, ils suivent une formation de 3 jours pour renforcer leurs connaissances sur l'organisation de l'État, le contrôle citoyen et la gestion communale. Une initiative de l'ONG AJDDH, Action pour la justice, le développement et les droits humains, qui entend préparer ces acteurs à mieux jouer leur rôle, même dans le contexte de l'état de siège. Yedidia Mabila, responsable de l'ONG AJDDH, s'entretient à ces sujets avec Jean-Claude Lokidile.
J'ai dit à Mabella, bonjour.
Bonjour, monsieur.
L'action pour la justice et le développement et les droits humains renforce les compétences des conseillers communaux ainsi que les acteurs de la société civile en matière de la gouvernance démocratique. Que peut-on comprendre par cette thématique ou, si vous voulez, que peut-on comprendre par cette démarche de votre organisation?
Cette formation que nous organisons aujourd'hui poursuit 3 objectifs spécifiques. Le premier objectif pour nous, c'est renforcer les capacités des conseillers communaux et des leaders locaux sur 3 ou 4 thématiques principales. D'abord, sur l'organisation politique, administrative et territoriale de l'État congolais. Ensuite, sur le principe démocratique, le principe de la bonne gouvernance démocratique. Troisièmement, sur le mécanisme de contrôle, voyez-vous, sur le mécanisme de contrôle à la fois citoyen et politique de la gestion de la commune. Et enfin aussi sur, si vous voulez, tout ce qui a trait avec les techniques ou les méthodes qui doivent être utilisées par les conseillers communaux pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance des communes.
Nous connaissons tout ce que l'Ituri est sous un régime spécial, l'état de siège. Que vont faire ces conseillers communaux avec toutes les connaissances qu'ils vont apprendre? Auront-ils vraiment l'occasion de contrôler, d'avoir le contrôle citoyen ou le contrôle politique de la hiérarchie?
Il y a des aspects ou des éléments importants à soulever par rapport à cette question. Les premiers éléments, c'est que l'état des sièges ou le régime spécial d'état des sièges n'est pas éternel. C'est pourquoi même on appelle ça mesure spéciale d'état des sièges. C'est-à-dire que c'est pour résoudre un problème. Et le problème ici, on le sait, c'est le problème sécuritaire. Et qui ne va pas demeurer toujours éternellement. Ça veut dire que nous sommes assez optimistes sur le fait que la paix reviendra et que lorsque la paix reviendra, l'état des sièges sera levé. Mais le deuxième élément qu'il faut soulever, c'est que même dans le contexte de l'état des sièges, il y a un rôle citoyen que doit jouer les leaders locaux et il y a aussi un rôle institutionnel que doit jouer les conseillers communaux. C'est pourquoi même malgré ces régimes spéciaux-là, pour nous c'était important de préparer ces acteurs-là pour qu'au tenter, ils soient à mesure alors d'agir efficacement pour améliorer la gouvernance des communes.
Comment pensez-vous, j'ai dit Dia Mabella, même sous l'état des sièges, les conseillers communaux ou acteurs de la civils peuvent collaborer avec les autorités en place dans le cadre de la gouvernance démocratique et améliorer justement leur gestion, donc la gestion de la chose publique?
En fait, les conseillers communaux et les leaders locaux sont des élites politiques et citoyennes qui sont le plus rapprochés des populations. Et en ces termes, ils ont des informations essentielles qu'ils peuvent partager aux autorités de l'état des sièges, qui sont là pour veiller à ce que l'ordre public, à ce que la sécurité soit garantie. Il y a cette passerelle de collaboration en termes d'échange d'informations. Ils peuvent mener des enquêtes citoyennes ou même mener des enquêtes parlementaires sur des questions sécuritaires et partager des notes techniques aux autorités établies par l'état des sièges pour que celles-ci arrivent à améliorer la gouvernance sécuritaire de ces entités-là. Ça, c'est de un. Et de deux, en plus des informations qu'ils peuvent transmettre à ces autorités, il y a aussi des plaidoyers qu'ils peuvent mener pour justement constituer des garde-fous afin que ces autorités-là restent dans le cadre de leur mission et que l'état de siège ne soit pas un moment où les violations massives des droits humains, par exemple, vont se commettre.
Dernière question, les pressions que nous avons, on peut se tromper et que les conseils communaux, les députés provinciaux notamment, ne sont pas peut-être autant considérés par les autorités en place. Quelles sont les recommandations que vous, peut-être que vous pouvez leur formuler ou leur demander, bien qu'on soit sous un régime spécial, dans le cadre justement de cette collaboration entre toutes les parties prenantes, quoi.
Moi, j'aimerais dire qu'en dehors d'être une mission régalienne de l'État, la sécurité est une affaire de tous. Et pour ça, les acteurs politiques et même les acteurs de la société civile ont un rôle à jouer dans la gouvernance sécuritaire. C'est comme ça que j'en appelle à l'ouverture des autorités établies sous état de siège pour collaborer avec ces acteurs-là. Ils sont essentiels. Ils sont essentiels dans la pêche aux informations. Ils sont essentiels dans les propositions des solutions. Ils sont essentiels même dans la légitimation des autorités de l'état de siège. Mais ils ont besoin des personnes qui ont été élues par la base, des personnes qui sont écoutées par leur base pour traquer alors les ennemis de la paix.
J'ai dit Didier Mabella, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de cette édition, elle a été coordonnée par Élisée Chikota sous la supervision d'Alain Irung. Pierre Diassinois était à la technique. Vous pouvez réécouter ce journal sur notre site internet radiocapi.net.